Proverbe 19:21, l'homme porte bien des projets dans son cœur, mais c'est le dessein de l'Éternel qui se réalise. Proverbe 27:1, ne te vante pas de ce que tu feras demain, car tu ne sais pas même ce qui arrivera aujourd'hui. Ouais. Voilà. Avec le texte d'aujourd'hui, on a une étape très importante. Là, tu peux passer à la diapo suivante. Jusqu'ici, on a vu la création d'églises, de communautés chrétiennes composées uniquement de juifs. Et on a vu aussi quelques conversions de gens qui n'étaient pas juifs, en Samarie et en Syrie, voilà, mais aussi un Éthiopien, un Italien. Ici, on parle de l'établissement de la première communauté chrétienne avec surtout des chrétiens issus du paganisme. Alors ça nous intéresse bien sûr, puisque nous, on n'est pas juifs. Hein. L'histoire se passe autour de 44 après Jésus-Christ, donc on est peut-être une douzaine d'années après la mort de Jésus. Et l'épisode se passe à Antioche de Syrie, vous voyez sur la carte où c'est vraiment petit. Antioche de... Alors, aujourd'hui c'est en Turquie, mais à l'époque c'était la capitale de la province romaine qui s'appelait la Syrie. Et c'est peut-être aussi important de le dire, à l'époque c'était la troisième ville de l'Empire romain, avec 500 000 habitants à peu près, une ville bâtie sur un port qui est au bord d'un fleuve, le fleuve Laurente. C'est important parce que ça veut dire, vous connaissez les villes portuaires, hein, c'est des villes très cosmopolites où se mélangent des gens d'un peu partout. Dans Acte 10, on voit la conversion de Corneille, un officier romain, et puis de ses proches, et puis la grande question des chrétiens de l'époque, est-ce que l'évangile c'est seulement pour les juifs ou c'est aussi pour les non-juifs? Et c'est presque avec surprise qu'ils voient qu'il y a une foule de gens qui se convertit. Ici, ils attendaient pas vraiment en fait, ici n'étaient pas préparés. Et en passant, cette question-là de est-ce que l'évangile est vraiment pour tout le monde est une question qui traverse toute l'histoire de l'Église, encore aujourd'hui. Alors je vous ai mis trois petits exemples, un peu pour sourire peut-être. À l'époque où des missionnaires hollandais ont commencé à implanter des églises en Malaisie, ils ont dit que pour être baptisé, il fallait pouvoir faire deux choses, c'était réciter le Notre Père par cœur et réciter le Credo par cœur. On est d'accord jusque-là? Sauf qu'il fallait le réciter en néerlandais. Vous suivez? Autrement dit, seule Ursula peut se faire baptiser aujourd'hui. Voilà. Plus près de nous, il y a eu une époque où si tu n'avais pas une grosse Bible noire sous le bras quand tu venais au culte, tu étais un espèce de demi-chrétien un peu suspect. Vous avez connu peut-être certains cette période-là. Ou plus près de nous encore, c'était pas très simple d'accepter qu'il y ait des pasteurs noirs dans nos églises. Ouais, voyez ? Qu'un chrétien soit noir, oui, mais alors un chrétien responsable, ouais, ça a coincé dans nos églises françaises. Est-ce que vraiment l'évangile est pour tous ? Oui, c'est un débat qui a traversé toutes nos églises. Est-ce que vraiment ce qui compte, c'est s'attacher à Jésus-Christ et seulement ça ? Ou est-ce qu'il faut rajouter un certain nombre de choses à côté ? L'homme propose, Dieu dispose, les projets de Dieu se réalisent. Est-ce que nous sommes motivés à y entrer ou est-ce qu'on fait d'autres projets? En l'occurrence, depuis tout temps, et surtout dans les prophéties d'Ésaïe, Dieu a toujours annoncé qu'il voulait faire un peuple d'adorateurs venus de toutes les nations et de toutes les langues de la terre. Ouais. Ça, Dieu l'avait annoncé depuis très longtemps. Puis on voit que les croyants de l'époque ont un peu de peine à entrer dans le projet de Dieu. Alors, avant de lire ce passage, juste rappeler qu'on est aussi à un tournant dans le livre des Actes. Jusqu'ici, dans le livre des Actes, on va dire la caméra est surtout braquée sur Jérusalem. Maintenant, la caméra va se déplacer, puisqu'on va raconter comment l'évangile se propage depuis Antioche jusqu'à Rome, en faisant toutes sortes de détours, par Chypre, par la Turquie, par la Grèce. C'est important parce que pour nous, il faut parfois des points de repère pour s'y retrouver dans un livre de la Bible, mais c'est aussi pour nous important de se rappeler. Jusqu'ici, c'était facile. On nous racontait un petit peu tout ce qui se passait dans l'Église, parce que l'Église était quelque part juste à Jérusalem et autour. Maintenant, les églises vont commencer à naître un peu partout. Et on ne va plus pouvoir tout raconter. Alors le Saint-Esprit va diriger Luc pour qu'il raconte juste un chemin, un exemple. L'exemple depuis Antioche jusqu'à Rome. Mais il faut toujours se rappeler qu'en parallèle de ce chemin-là, il y a d'autres chemins qui se font. J'en ai marqué quelques-uns ici. Il y a notamment tout un mouvement qui va partir de Damas et sa région et qui va traverser la Perse, l'Iran d'aujourd'hui, jusqu'au nord de l'Inde. Il y a un autre mouvement qui va partir de Jérusalem en direction du Maroc. Et encore un autre qui va partir de l'Éthiopie. Vous vous rappelez qu'il y a eu la conversion d'un ministre des Finances éthiopien, et qui va partir de l'Éthiopie jusqu'au Mali et jusqu'au Malawi. En même temps. Vous voyez ? Donc il faut parfois se rappeler, l'Évangile il part dans toutes les directions. Maintenant, si on nous raconte tout en même temps, on ne comprendrait plus rien. On nous donne un exemple, comment l'Évangile va se répandre. Et comment ? Voilà. Surtout l'apôtre Paul et son équipe vont apporter l'Évangile en Turquie et en Grèce, des régions où on parle toutes sortes de langues, mais il y a une langue de passage, ce n'était pas l'anglais à l'époque, c'était le grec, qu'on appelle parfois le grec de la Koiné. Alors, je vous invite maintenant à prendre vos Bibles et à lire quelques passages. Ça vaudrait la peine de tout lire, mais on va lire juste ce qui concerne l'église d'Antioche. Donc, au chapitre 11 du livre des Actes, les versets 19 à 30. Les disciples s'étaient dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne. Ils allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, mais ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. Toutefois, quelques-uns d'entre eux, qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, se rendirent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-Juifs, en leur annonçant le Seigneur Jésus. Or, le Seigneur était avec eux. Un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Bientôt, l'église qui était à Jérusalem apprit la nouvelle et l'envoya Barnabas à Antioche. À son arrivée, il constata ce que la grâce de Dieu avait accompli et il en fut rempli de joie. Il encouragea donc tous les croyants à rester fidèles au Seigneur avec une ferme assurance. Barnabas était en effet un homme bienveillant, rempli d'Esprit Saint et de foi. Et un grand nombre de personnes s'attachèrent au Seigneur. Barnabas se rendit alors à Tarse pour y chercher Saul. Quand il l'eut trouvé, il l'amena avec lui à Antioche. Ils passèrent toute une année à travailler ensemble dans l'église et enseignèrent beaucoup de gens. C'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples de Jésus furent appelés chrétiens. À cette même époque, des prophètes se rendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et rendit sous l'inspiration de l'Esprit et prédit sous l'inspiration de l'Esprit qu'une grande famine sévirait bientôt dans le monde entier. Elle eut lieu en effet sous le règne de l'empereur Claude. Les disciples d'Antioche décidèrent alors de donner chacun selon ses moyens et d'envoyer des secours aux frères qui habitaient la Judée. C'est ce qu'ils firent. Ils envoyèrent leurs dons aux responsables de l'Église par l'intermédiaire de Barnabas et de Saul. Et un tout petit peu plus loin, au chapitre 12, où on a la suite de cette histoire, au verset 24, « La parole de Dieu se répandait toujours plus. Barnabas et Saul, après avoir rempli leur mission en faveur des croyants de Jérusalem, partirent en emmenant avec eux Jean, surnommé Marc. » Voilà. Deux petits morceaux où on raconte la vie de cette église d'Antioche en l'an 44-45. Entre deux, il y a trois épisodes que je n'ai pas lus, mais qui sont des épisodes aussi importants, et je trouve ça éclaire un petit peu l'histoire de cette église d'Antioche. Le premier épisode, c'est le meurtre de Jacques, le frère de Jean, un des grands intimes de Jésus. Ensuite, c'est l'arrestation de Pierre, qui est mis en prison et qui est délivré miraculeusement par un ange. C'est d'ailleurs un des textes un peu humoristiques, puisqu'il sort, il va taper à une porte et personne ne lui ouvre. Et puis, il y a un troisième épisode, c'est la mort du roi Hérode, frappé par le Seigneur. Alors, avant de parler de l'histoire d'Antioche, j'aimerais parler un peu de ces épisodes parce que je trouve qu'ils nous éclairent un petit peu. Hérode a fait des plans pour arrêter l'expansion de l'Église et le Seigneur arrête son projet. C'est le projet du Seigneur qui se réalise. La persécution continue, mais l'Église continue à grandir et à prospérer. l'Église a aussi fait des projets et on voit aussi que c'est le Seigneur lui-même qui va parfois modifier les projets que l'Église avait mis en place. Dans cette histoire, il y a plein de surprises. La mission de l'Église, on va en parler tout à l'heure, est à la fois de faire des projets et aussi de reconnaître la main de Dieu pour adapter nos projets. Parce que finalement, ce qui compte, c'est l'intervention du Seigneur. Alors j'ai marqué trois surprises, je pense, dans ce passage. La première surprise, c'est la conversion en masse de païens. On a vu Corneille, mais ensuite, il y a plein de personnes qui se convertissent à Antioche. On l'a lu, dans un premier temps, il n'annonce l'évangile qu'aux Juifs. Et puis, quand il commence à annoncer l'évangile aux autres, alors on parle des Grecs parce que ils parlent grec, comme je l'ai dit, ils parlent toutes sortes de langues, mais ils ont au moins une langue commune, c'est le grec, depuis Alexandre le Grand. Mais il y a plein de conversions. Et on se rend compte que l'Église de Jérusalem n'avait pas forcément prévu ça. Ils n'ont pas forcément prévu des missionnaires pour les envoyer à Antioche. Mais ils voient que le Seigneur est en train d'agir, et ils vont donc envoyer quelqu'un. En l'occurrence, ils envoient Joseph, surnommé Barnabas, qui est l'un des diacres. Barnabas, ça veut dire celui qui encourage. Barnabas est un juif originaire de Chypre. Jusqu'ici, on a vu plusieurs fois l'Église envoyer des gens, mais c'était pour des missions courtes. On a Pierre et Jean qui vont faire un voyage en Samarie, et après ils reviennent. Ici, on dirait aujourd'hui c'est l'envoi d'un pasteur. Ils envoient quelqu'un pour habiter Antioche et rester avec cette Église. La deuxième surprise, c'est que la prière, ça marche. Les chrétiens ont sans doute prié pour qu'il y ait des conversions, et quand ça marche, ils sont un peu surpris. Mais on voit aussi qu'ils ont prié, sans doute, pour Jacques, mais Jacques est quand même mort. Ils ont prié pour Pierre, et Pierre est délivré miraculeusement. Là aussi, nous faisons des projets, nous prions, et puis c'est les plans du Seigneur qui se réalisent. Je trouve assez, presque un peu humoristique dans ce passage, que quand Pierre va frapper à la porte d'une église, d'un petit groupe de croyants, les croyants sont sans doute en train de prier pour qu'il soit délivré, et quand il frappe à la porte, personne ne croit qu'il a été délivré. Ouais ? Vous avez déjà remarqué ça ? Ça vous est déjà arrivé ? On prie pour quelque chose, et quand ça se passe, on se dit, tiens, c'est bizarre, comment ça se fait ? Ouais ? Il y a parfois des prières qui marchent. Est-ce que nous apprenons à y croire ? D'ailleurs, dans cette histoire, même Pierre a de la peine à croire que ça a marché, Et on nous raconte que pendant longtemps, il pense qu'il est en train de rêver jusqu'à ce qu'il est sur le trottoir et qu'il se dit « Mais en fait, finalement, il s'est passé quelque chose. » Bon. On prie et souvent, ça marche. Est-ce que nous savons nous en réjouir ou est-ce que... Voilà, bon. La troisième surprise, c'est la mort du roi Agrippa, Hérode Agrippa Ier. Il y a un Hérode Agrippa II qu'on va retrouver à la fin du livre des Actes et qui va notamment interroger l'apôtre Paul. Ici, la surprise, c'est que les chrétiens ont prié pour que la persécution s'arrête. Et il se passe deux choses complètement différentes. On a l'apôtre Paul qui se convertit et devient un chrétien zélé, et puis on a Hérode qui meurt brusquement. Vous voyez ? Ils ont sans doute prié de la même manière pour l'un et pour l'autre. Vous voyez ? Ce n'est pas de la même manière que Dieu exauce leur prière. Dieu protège son Église, mais pas toujours de la même manière. Notre appel, c'est de prier pour nos persécuteurs et nous attendre à l'action miraculeuse du Seigneur. Après, c'est le Seigneur qui choisit. L'homme propose et Dieu dispose, et souvent notre boulot, c'est surtout nous réjouir de ce que Dieu a accompli. J'ai mis cette petite phrase, et l'Église change ses plans, parce que on a parlé... Pardon. Le week-end dernier, on avait quelqu'un de Portes Ouvertes qui nous a parlé de ce livre de Frère André qui dit « Et Dieu changea ses plans ». En fait, la plupart du temps, c'est plutôt l'Église qui doit changer ses plans pour s'adapter au Seigneur. Voilà, deuxième partie de ma prédication. Je pense que ce passage nous rappelle un petit peu quelle est la mission de l'Église. Alors, bien sûr, les priorités de l'Église d'Antioche, mais aussi, bien sûr, les nôtres. Alors, bien sûr, en tant que pasteur, c'est toujours des passages qui m'intéressent beaucoup, de dire, quelle est la mission de l'Église ? Est-ce que notre Église est dans les clous, si j'ose dire ça comme ça ? Est-ce qu'elle est en train d'entrer dans les missions que le Seigneur nous a confiées? Comme je l'ai dit, une des choses, c'est qu'on a des projets à faire et qu'on doit s'adapter à ce que le Seigneur fait. Je vous ai mis aussi un petit rappel de ce qu'on avait vu il y a pas mal de temps dans Acte 2, où on nous décrit ce que fait l'Église en quatre mots. Prier, enseigner ou écouter les enseignements, vivre en communion et puis rompre le pain. En précisant qu'ils se retrouvent souvent, tous les jours, qu'ils se retrouvent parfois au temple, donc tous ensemble, et parfois dans les maisons particulières, donc en petits groupes. Ici, on reprend presque les mêmes éléments, la prière, l'enseignement et le partage. Et on suggère un quatrième élément en cours de route que je vais mentionner en cours de route. Le premier élément, c'est bien sûr la prière. On est appelé à prier. Vous remarquerez en passant que quand Pierre est mis en prison, ils vont prier plutôt que prendre des armes. Le roi Hérode, lui, craint qu'il prenne les armes pour venir délivrer Pierre de force. C'est pour ça qu'il met 16 soldats pour Pierre seulement. L'Église prie et s'attend au Seigneur plutôt que prendre les armes. Ça fait partie d'un des appels du Seigneur. Nous sommes appelés à être collaborateurs du Seigneur, donc utiliser les mêmes armes que lui, et non pas à utiliser les armes de l'ennemi. La première mission de l'Église, c'est de prier, et de prier en cherchant la volonté de Dieu qui n'est pas toujours la nôtre. Notre mission, c'est aussi d'être à l'écoute du Seigneur et d'agir en conséquence. Est-ce que notre Église prie? Oui. Beaucoup de groupes, de réunions de prière, de personnes qui prient individuellement. Maintenant, on sait bien que c'est jamais assez. Est-ce qu'on a un jour assez prié? Je pense que non. On a toujours à prier plus et sans doute aussi à prier mieux. Apprendre à prier en écoutant Dieu et pas seulement en parlant. Apprendre à prier pour toute l'Église et pas seulement pour nous. Apprendre à mettre le Seigneur au cœur de nos prières et ses projets à lui au cœur de nos prières. Vous savez, souvent, on met d'abord nos projets au centre, puis après, on rajoute des prières pour dire « Seigneur, fais que mon projet réussisse ». Oui, bien sûr, c'est aussi notre tâche, mais nous avons aussi à prier de dire « Seigneur, c'est quoi ton projet? J'aimerais y entrer. Donne-moi cette souplesse pour entrer dans tes projets ». Le deuxième point, c'est le point de l'enseignement. C'est d'ailleurs le point qui est le plus mis en avant dans ce passage-ci. Quand on décrit le ministère de Barnabas à Antioche, c'est le point principal qui est mis en avant. Il enseigne. Et il juge l'enseignement tellement nécessaire qu'il va chercher du renfort pour enseigner. Il va chercher l'apôtre Paul et c'est ensemble qu'ils vont enseigner. L'action de Paul et Barnabas dans l'Église est décrite avec deux verbes. Un verbe qui veut dire « agir ensemble » et un verbe qui veut dire « enseigner ». Ouais. Je ne sais pas si quand vous résumez tout ce qui se passe dans une Église comme la nôtre, vous utiliserez ces deux termes-là. « Enseigner » et « agir ensemble ». Vous voyez que tout ce qui n'est pas l'enseignement est juste réuni dans un seul mot, ça fait un peu bizarre. Hein ? Dans notre tête, on a plein de choses. « Ah oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça. » Agir ensemble et enseigner, il semble que la priorité, en tout cas à cette époque dans l'Église d'Antioche, c'est enseigner. Quelle part est-ce que j'attache à enseigner et à me laisser enseigner? Ouais. Lorsque je lis la Bible, c'est pour me faire du bien ou c'est pour être enseigné? Est-ce que je lis un bouquin, c'est pour me détendre, pour être encouragé ou pour être enseigné, pour être construit? En passant cette première année de Paul à Antioche, ou Saul, Paul, hein, c'est ces deux noms, cette première année à Antioche, c'est aussi une sorte d'année de formation. Barnabas va le chercher à la fois pour que ce soit du renfort, il a besoin de lui pour l'Église, mais aussi pour le former. C'est un peu un stagiaire d'institut biblique, si vous voulez. J'ai rajouté un petit sous-point, parce qu'il me semble qu'il est un peu sous-entendu. Enseigner pour former des responsables. C'est un point qu'on trouvera systématiquement après. On voit l'apôtre Paul et puis ses différentes équipes qui nomment, qui forment des responsables dans les églises. Ici, on ne nous dit pas tout, mais au chapitre 13, qui vient juste après, on nous décrit toute une équipe de responsables. On les a formés. On a formé cette équipe de responsables. Mais surtout, c'est parce que quelque part, lorsqu'on enseigne, c'est justement pour ça. On enseigne, non pas pour que les gens soient gavés, mais pour qu'ils se mettent à l'œuvre, pour qu'ils deviennent actifs, agissant dans l'œuvre du Seigneur. Alors, j'avais envie de relire un verset dans Éphésiens 4, 11. Pardon, à partir du verset 11. C'est Dieu qui a fait don de certains, à l'Église, comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme prédicateurs de l'Évangile, et d'autres encore comparables à des bergers comme enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que les membres du peuple saint soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. Si Paul et Barnabas enseignent, c'est pour que chaque croyant soit rendu apte à accomplir un service. Je pense que c'est le point principal ici sur la question de l'enseignement. Il me semble qu'il y a un point un petit peu annexe qui est les critères. Ah, je crois que j'ai oublié de les mettre sur le PowerPoint. Bon, tant pis. Quels sont les critères pour un bon responsable ? Alors, dans nos églises, nous votons pour nos responsables, donc c'est bien de les avoir en tête, mais c'est surtout parce que c'est un modèle pour nous. Si on sait que nous devons apprendre à être au service de l'Église, il faut savoir ce qui est le plus important. Et donc, il y a un certain nombre de critères, certains sont explicites, d'autres sont un peu sous-entendus. Les deux critères les plus explicites, c'est la bienveillance et être rempli du Saint-Esprit et de foi. Ouais. Intéressant qu'on décrit Barnabas ainsi. C'est un homme bienveillant et un homme rempli de Saint-Esprit et de foi. Il me semble qu'il faut ajouter d'autres critères encore. Bon, d'abord, on l'a dit, Barnabas, c'est quelqu'un qui encourage, quelqu'un qui se réjouit de ce qui est là et qui encourage. Mais aussi, sans doute, on l'a choisi, lui, parce qu'il a l'habitude de collaborer avec des Juifs et avec des païens. Vous vous rappelez qu'il est un Juif originaire de Chypre, comme Paul est un Juif originaire de Turquie. On imagine que s'ils avaient envoyé un juif pur sûr, je ne sais pas si c'est le bon terme, hein, de Jérusalem, ça aurait pu poser quelques tensions. Oui. Dans la suite de l'histoire, on sait que des gens de l'entourage de Jacques, l'autre Jacques, le frère de Jésus, vont créer beaucoup de problèmes à cause de leur intransigeance, parce qu'ils veulent que les chrétiens se comportent comme des bons juifs. Oui. Donc on va aussi choisir Barnabas à cause de ça, parce qu'il a l'habitude de travailler, de discuter avec toutes sortes de gens. Oui. Quel est votre rayon d'action, si j'ose dire ça comme ça? Avec quel type de personnes vous êtes à l'aise pour parler, en particulier pour parler de la foi? Bon, rempli de l'esprit et de foi, capable d'encourager et d'enseigner, capable d'être en relation avec toutes sortes de personnes, c'est le modèle que Barnabas nous propose. L'Église d'Antioche va développer une grande capacité à enseigner et à multiplier les responsables, au point de pouvoir envoyer des missionnaires. Alors, Acte nous parle de deux équipes, on y arrivera en cours de route, hein. Barnabas et Jean-Marc qui vont partir vers Chypre, et puis Paul et Silas qui vont partir vers la Turquie. Comme je l'ai dit, les historiens nous apprennent qu'ils ont aussi envoyé des équipes en Iran et en Irak, et ensuite en Arménie. Pour notre Église, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense qu'on est plutôt en période de défi de responsable, alors qu'on devrait être capable non seulement de pourvoir à nos propres besoins, mais en plus d'en envoyer ailleurs. Alors, on a quand même eu le privilège d'envoyer quelques responsables, Karine qui est partie à la CIM, Jean-François et Marie-Claire qui sont partis à Rennes, puis ensuite à Marseille, Mireille qui est au service des aumôneries, Maïté au service de France Mission, mais à mon sens, c'est encore faible. Une Église est appelée à multiplier, à envoyer. Enfin, le dernier point, c'est le soutien. L'Église se met à soutenir les frères dans la difficulté. On voit d'ailleurs différentes étapes. Dans Acte 2, c'est quelque part, une entraide naturelle comme ça, où chacun aide son ami, si j'ose dire ça comme ça. En acte 6, on commence à structurer l'aide. Au lieu de donner directement, on va quelque part donner à l'Église qui va redistribuer avec toute une structure et des responsables pour ça. Ici, on passe encore à une vitesse supérieure, si j'ose dire ça comme ça, puisqu'on ne va pas seulement aider notre propre Église locale, on va commencer à aider d'autres Églises locales plus loin. Et vous savez sans doute que l'apôtre Paul, bien des années plus tard, 15 ans plus tard, va organiser une autre collecte. Cette fois, ce sont les églises de Grèce qui vont soutenir les églises de Jérusalem. Lorsque vous donnez, est-ce que vous donnez pour ce qui est ici et pour ce qui est au loin? Est-ce que vous donnez pour l'annonce de la parole et pour les besoins matériels? Comment est-ce que vous donnez? L'homme propose et choisit son chemin, Dieu dispose et guide ses pas. Je trouve que ce passage de la Bible nous appelle à être ouverts aux surprises du Seigneur. Il y a des grandes surprises, comme la conversion de plein de gens dans des villes où on n'y attendait pas. Moi, j'aimerais bien avoir plus ce genre de surprises-là. On en a parfois là. Des peuples qui n'avaient pas été visés par l'Évangile commencent à entrer dans l'Église. Et au lieu de s'arc-bouter sur ses anciens projets, l'Église a la sagesse de voir et d'entrer dans les projets de Dieu. Donc l'Église d'Antioche, il y a trois grandes priorités: prier, enseigner et soutenir les frères. Voilà, je vous invite à prier encore. Seigneur Jésus, j'aimerais te prier avant tout de nous apprendre à prier et à prier en écoutant ce que tu as à nous dire. Tu vois tout ce que nous avons en tête, ce que nous avons dans le cœur et que nous aimons t'apporter dans la prière. Mais Seigneur, je te prie que tu nous aides à t'entendre pour entrer dans tes projets. Nous savons que tu as des bons projets, des grands projets, et on veut y entrer. On veut y faire notre part, comme d'autres sont appelés à faire la leur. Seigneur, continue à nous enseigner, à nous rendre capables de faire le service qui est le nôtre. Pour que ta gloire, Seigneur. Amen.
Glorifions le Seigneur par la lecture de la parole. Le soir, Jésus arriva avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, il leur dit: « Vraiment, je vous l'assure, l'un de vous qui mange avec moi me trahira. » À ces mots, ils devinrent tous tristes. Et l'un après l'autre, ils lui dirent: ce n'est pas moi, n'est-ce pas? Alors il reprit: c'est l'un des 12, celui qui trempe son morceau dans le plat avec moi. Certes, Fils de l'homme s'en va, conformément à ce que les Écritures annoncent à son sujet. Mais malheur à celui qui trahit le Fils de l'homme.